Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous retrouvons Louis Albran, qui est passionné d'histoire et qui est écrivain. Bonjour Louis.
Bonjour mes chers amis, bonjour à toutes et à tous. Continuons à parler des grandes familles, ces grandes familles qui, vers le 12e et 15e siècle, ont régné, on peut dire, ont dirigé les Hautes-Alpes. Alors, aujourd'hui, intéressons-nous à la famille de Mévouillon. En effet, du 12e au 14e siècle, dans notre région des Alpes du Sud, cette famille a joué un rôle primordial, majeur, entre la vallée de la Durance et celle du Rhône. C'est ce que l'on nomme encore aujourd'hui les baronnies. Ici, le prénom qui se transmet de génération en génération au cours des siècles n'est pas Arnaud, comme chez les Flottes, que nous avons vu dans notre émission précédente, mais Raymond, prénom qui lui aussi fleure le bon Moyen-Âge. La famille débute vers l'an 1000. Ils deviennent vassaux de l'empereur Frédéric Barberousse en 1178. Et leur lignage va s'éteindre progressivement vers les années 1317. Selon certains, l'évêque de Gap, Ripert, qui était simoniaque, c'est-à-dire prêt à tout pour s'enrichir, à vendre les biens du clergé, à toucher de l'argent, des commissions, serait de la même lignée, fils d'une certaine Percipia. Mais cela n'est pas prouvé. Était-ce le fils d'un amour clandestin, d'un amour hors mariage? On ne sait. Néanmoins, les Mouvillons seront au cours du temps alliés puis ennemis des Montauban, autre grande famille dont ils convoitent les terres. Le fils de Raymond participe à la croisade de 1125. Donc, dans ce 12e siècle, Raymond se rapproche de notre grand seigneur, Bertrand de Fort-Calquier, pour limiter les ambitions du comte de Provence, toujours aux aguets, toujours prêt à venir vers le nord prendre les terres. L'une des filles de Raymond II, Béatrix, épousera Bertrand d'Agoult et de Mison, et elle amène dans sa dot les châteaux d'Orpierre, Le Poète, Ison et La Borelle. À la troisième génération des Mévouillons, Raymond III est croisé en 1190. Il part avec les Templiers. Il y avait beaucoup de commanderies templières ici, puisque c'était sur la route de Jérusalem. Par exemple, les Templiers qui partaient en Paris, de Paris, on leur donnait un papier, arrivé par exemple à Embrun, Saint-Crépin, Briançon, ils montraient ce papier et leur donnaient de l'argent. Ça évitait qu'ils soient... Ils ont inventé le chèque en quelque sorte. Ça évitait qu'ils soient tués pour qu'on leur vole leur argent. Il refusera, malgré la demande du roi, de participer à la croisade contre les Albigeois, puis les Vaudois. Il aide l'abbaye de Durbon et en 1230, il achète le château de Mérendol pour assurer sa défense à la frontière des baronnies. Vient enfin Raymond IV de Mévouillon, qui vécut dans l'imposant château d'Ollan, près de Mévouillon, remarquablement conservé. Son fils d'ailleurs sera archevêque d'Embrun en 1282. Raymond V, lui né en 1240, il finira ruiné et vendra la baronnie. Mais heureusement, son fils Raymond VI ne permettra pas cette vente et malgré les dettes, il accordera liberté et franchise aux habitants du Buis. C'est ce que fera plus tard le dauphin avec les escartons briançonnés. Il devient ensuite dans les ordres frères prêcheurs. Les Mévouillons sont donc du XIe au XIVe siècle gérants d'un domaine immense dont la partie nord, surtout après leur alliance avec les Misons, concerne notre territoire le long de la Durance, des Mets jusqu'à Embrun. Tous ces grands seigneurs, ces grands lignages, issus des temps pré-romans, aux innombrables alliances, ont été pour nous des traceurs d'histoire. Ces alliances expliquent qu'au XIIe siècle, leur domaine immense leur donne un rôle politique majeur. Il n'est pas anodin que Raymond de Nouvillon soit nommé archevêque d'Embrun en 1282. Il peut ainsi régner sur l'Embrunais, le Diois, etc. Rappelons que déjà au Xe siècle, les Nouvillons sont évêques de Gap, Vaison et Sisteron. Cette fréquente séparation, accapération plutôt des biens de l'Église par ces familles au cours du XIe siècle, explique mieux le pouvoir exorbitant des princes archevêques d'Embrun au Moyen-Âge, souvent issus de ces familles que l'on constate dans un autre chapitre de ces conférences. Le pouvoir central, Paris-Rome, est loin et faible. Toutes les dérives deviennent donc possibles et ce sont de véritables seigneurs qui ont tous les pouvoirs religieux, juridiques, battre la monnaie, militaire, etc. Et le plus souvent, leurs exagérations restent impunies. Ces seigneurs, comme celles des Flottes, des Rostins, des Ripères, des Mécouvillons, découpent les grands domaines carolingiens. C'est l'émergence des fameux castrum, castellum encore, qui remplacent et imitent la villa romaine. Ils sont indispensables aux grands pour des raisons sécuritaires et économiques. Ce sera donnant-donnant, dans un climat de négociation permanente, ils s'installent ainsi des grands pouvoirs. Ce sont les multinationales de l'époque, Cluny, Saint-Victor, l'archevêché d'Arles, etc. Saint-Victor, je parle de Saint-Victor de Marseille, près du Vieux-Port. Éternelle dépendance des plus faibles vis-à-vis des plus puissants que l'on retrouve, reconnaissons-le encore, aujourd'hui.
Merci beaucoup.